Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
J'accueille Philippe Bonneville de Cogeco Nouvelle. Salut Philippe.
Salut Patrick.
Donc, il est désormais possible pour tous les Québécois de 50 ans et plus, y compris ceux qui ont reçu les Moderna ou AstraZeneca, de devancer leur rendez-vous pour la deuxième dose.
Oui, plusieurs personnes attendaient ça avec impatience. À partir de maintenant, Patrick, peu importe la sorte de vaccin, devancer donc la deuxième dose, le deuxième rendez-vous via Clic Santé, c'est possible. Il y a encore un peu de problème sur Clic Santé, là, mais en général, ça fonctionne. Pourquoi c'est possible? Parce que le Québec a enfin reçu suffisamment de doses de Moderna pour répondre à la demande. En fait, le Québec, Patrick, a même reçu 500 000 de doses supplémentaires de Moderna, des doses qui étaient donc imprévues. Donc ça aide grandement à accélérer cette fameuse deuxième dose. Donc ceux qui ont 50 ans et plus peuvent devancer leur rendez-vous dès aujourd'hui. Ce sera les 45 ans et plus à partir de demain et ainsi de suite. Maintenant, au sujet d'une quatrième vague à l'automne, d'une possible quatrième vague à l'automne que certains redoutent, eh bien, le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors du point de presse cet après-midi, a dit ne pas s'inquiéter outre mesure de cette possibilité-là. N'a pas du tout l'intention d'ailleurs de ralentir le déconfinement, même si certains le réclament. Je te laisse entendre un extrait du point de presse de cet après-midi.
Que les gens nous disent peut-être qu'on déconfine trop vite, si on déconfinait moins vite, on ne serait pas assez vite. Moi, je ne suis pas là. Je pense qu'on suit la santé publique, mais il y a une chose que je sais. Nous, notre travail, c'est de vacciner les gens pour être sûr qu'on a le plus haut taux de vaccination au monde d'ici le 31 août. C'est là-dessus qu'on va travailler.
Et on ne sait toujours pas là, si le Canadien de Montréal va pouvoir accueillir plus de spectateurs au Centre Bell.
Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé, Patrick, parce qu'on a posé plusieurs questions à ce sujet-là lors du point de presse. La partie à Montréal, c'est dans 72 heures. Donc, ça commence à presser pour une annonce dans ce dossier-là. Ce qu'on nous répond, c'est que les discussions se poursuivent entre la santé publique et le gouvernement Legault. On dit cependant que l'annonce, elle est imminente, que ça va se faire au cours des prochaines heures. Est-ce que c'est donc en fin d'après-midi, ce soir, demain matin? Ça s'en vient. Je vais te laisser entendre la réponse de Rassou Arruda. Difficile, tu vas voir, de décoder s'il va permettre, oui ou non, aux Canadiens d'accueillir plus de spectateurs. Écoute ça et tu me diras dans quelle direction tu penses qu'on s'en va.
C'est un mélange d'analyses, de scénarios. C'est sûr que ce qu'on fait doit être cohérent avec les autres secteurs d'activité, de rassemblement intérieur-extérieur, doit respecter certaines approches qu'on a décidé d'avoir jusqu'à maintenant, particulièrement à l'intérieur, en lien avec des entrées et des sorties séparées pour ne pas mélanger les îlots de 250 qu'on a déterminés. Là. Fait que là, j'en resterai à ceci maintenant et laisserai le gouvernement, après qu'on ait terminé nos discussions, faire les annonces nécessaires.
Veux-tu une analyse en forme de commentaire éditorial?
Vas-y. D'accord ou pas d'accord, ben, Rassou, avec le nombre de spectateurs?
D'abord,
augmenté?
J'ai rien compris de ce qu'il dit. et ensuite, c'est une salade de mots pour pouvoir, donner de l'espace aux politiques pour décider.
Et voilà. Et moi, je veux terminer avec une bonne nouvelle parce que pour la période estivale, on sait qu'il y a des règles là, en zone verte, en zone jaune. On arrive à l'été. Eh bien, justement, Horacio Arruda est un peu plus clair là-dessus. Laisse entendre que le nombre de personnes permises tant à l'intérieur et à l'extérieur des maisons pourrait être augmenté. Annonce à venir dans ce sens-là au cours des prochains jours, semble-t-il. Donc, possiblement de plus gros parties résidentielles cet été. Ça, les gens vont être contents.
Merci beaucoup, Philippe.
Ça fait plaisir.
On va faire le point sur l'état de la pandémie ici et ailleurs avec mon microbiologiste infectiologue préféré. Eh oui, après 15 mois de pandémie, je suis rendu que j'ai des microbiologistes infectiologues préférés. Alex Carignan du CIUS de l'Estrie. Je suis prof à l'Université de Sherbrooke, est au bout du fil. Docteur Carignan, salut!
Salut Patrick, vous me faites rougir là.
Ben écoutez, c'est toujours un plaisir de vous parler. Vous rendez la microbiologie et les infections très très vivantes, donc bravo. D'abord, votre appréciation de la campagne de vaccination au Québec là, en ce 15 juin, ça ressemble à quoi?
Bien là, c'est intéressant de voir qu'on entre dans le cœur de la campagne avec l'augmentation des deuxièmes doses. On a eu une transition au cours des derniers jours où est-ce qu'on donnait davantage de premières doses. Maintenant, on donne davantage de deuxièmes doses. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. on ne peut qu'être satisfait de ça.
OK. Je veux qu'on parle du variant Delta, Alex, parce qu'on a vu que ce variant-là, c'est l'ancien variant britannique, hein, je pense, le Delta, c'est ça, ou c'est indien?
Indien.
Indien, parfait. Bon, il force un ralentissement du déconfinement en Angleterre. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour ce que ça pourrait annoncer ici?
S'inquiéter, toujours, il faut faire attention avant de s'inquiéter. Par contre, il faut regarder ce qui se passe certainement, parce qu'on sait que une seule dose, ce n'est pas suffisant. Ben, en fait, on espère toujours avoir deux doses pour avoir la protection optimale, mais avec une dose, on parle autour d'une protection de 30% contre le variant Delta. Par contre, on a plusieurs avantages. On a l'avantage d'abord que pour l'instant, on n'en a pas beaucoup ici au Québec. On a l'avantage que la campagne de progression, la campagne des deuxièmes doses progresse bien. Donc, avec deux doses, on a une très bonne protection autour de 90%. Donc, si on peut maintenir la cadence, on peut éviter, je pense, un rebond avec une quatrième vague peut-être à l'automne. Ce matin, il y avait des gens aussi qui demandent, bon, je pense qu'il y a d'autres améliorations. Il ne faut pas jouer que sur la vaccination, mais c'est certainement un élément important. On a aussi l'avantage, ici, on utilise davantage de vaccins ARN, ce qui semble, qui pourrait peut-être donner un avantage dans ce contexte-là. Donc, c'est à suivre, mais je pense qu'on doit regarder ça de près.
OK. Et qu'est-ce qu'on sait sur les gens qui sont infectés présentement en Grande-Bretagne? Est-ce que ce sont des gens qui n'ont pas été vaccinés ou des gens qui ont juste reçu une dose?
Bien, en fait, il y a une combinaison, un peu comme je vous dirais même ce qu'on voit au Québec. Évidemment, c'est principalement des gens qui n'ont pas été vaccinés. On voit que il y a aussi des cas, entre autres parmi les hospitalisations, de gens qui n'avaient reçu qu'une seule dose. Lorsqu'on parle des deux doses, par contre, là, on observe vraiment une très, très bonne protection.
OK. J'ai une question là qui me parvient par la messagerie au 98985, Dr Carignan. On me demande, est-ce que c'est vrai que les effets secondaires sont plus importants si la première dose est du Astra et la deuxième du Moderna?
Oui, effectivement, ça a été noté dans les études. C'est un très bon point. On parle d'effets secondaires bénins qui peuvent être quand même dérangeants. Par exemple, la douleur au site d'injection, des maux de tête suite à la vaccination, des douleurs musculaires. C'est un peu plus marqué pour les gens qui vont avoir reçu deux vaccins différents par rapport à une personne qui aurait reçu deux doses d'AstraZeneca.
OK. Là, question personnelle. Catherine Beauchamp et moi avons l'ambition ce soir d'aller chercher nos deuxièmes doses d'AstraZeneca. Ça m'a un peu knocké, comme on dit en mauvais québécois, la première dose. La deuxième, est-ce que je devrais être correct ou faut que je prévoie une petite tisane ce soir?
Ben, je pense qu'il faut garder ça tranquille. Effectivement, on peut s'attendre à la fatigue demain, certainement, peut-être pas planifié de boxe. Probablement que le bras va être un peu endolori. Mais effectivement, ça devrait bien se passer. Puis on parle d'effets secondaires, encore une fois, bénins, qui durent de 24 à 72 heures. Une des raisons pour lesquelles aussi on donne préférentiellement une deuxième dose d'un vaccin ARN aux gens qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca, c'est pour limiter le risque aussi de thrombose. Même s'il est beaucoup plus faible lors de la deuxième dose, on parle de 1 sur 600 000 à 1 cas par million de doses, c'est quand même présent, puis on veut évidemment éviter ce risque-là. Il y a des gens, pour différentes raisons, qui préfèrent y aller avec deux doses d'AstraZeneca, cette possibilité est encore là. Mais je vous dirais, puis bon, je ne sais pas votre cas, le cas de Catherine. Par exemple, ma conjointe, elle va opter pour une deuxième dose d'un vaccin ARN alors qu'elle avait reçu une dose d'AstraZeneca. Il y a des données aussi qui nous montrent qu'on semble avoir possiblement une meilleure réponse immunitaire dans ce contexte-là. Donc, il y a quand même certains éléments, je pense, qui pourraient encourager les gens à opter pour un vaccin ARN pour la deuxième dose lorsqu'on a reçu AstraZeneca en première dose.
OK, il y a deux sujets de l'heure au Québec. D'une part, la pandémie. D'autre part, le Canadien de Montréal. Le premier ministre voudrait que le Centre Bell puisse accueillir plus de 2500 personnes. On sent que M. Dubé, lui, est un peu plus prudent. Yves Boisvert, dans la presse ce matin, a fustigé l'empressement de M. Legault. Ça devrait être quoi, disons, la capacité maximale du Centre Bell pour le prochain match?
Bien, ça dépend du contexte. Moi, je vais vous dire que dans les conditions actuelles, je suis un peu plus du côté de M. Dubé. Il faut se garder une réserve. Par contre, moi, j'aurais été en faveur d'admettre beaucoup plus de spectateurs vaccinés à deux doses. Donc ça, on aurait pu à la limite remplir le Centre Bell. ça se ferait de façon sécuritaire. Ça pourrait permettre de donner un bon exemple, disons, d'encourager la vaccination, certainement. Par contre, je peux comprendre aussi qu'il y a des notions d'équité dans tout ça. Mmh. C'est pas tout le monde qui a eu accès à la deuxième dose. Donc, peut-être qu'on veut se garder une gêne à ce niveau-là, mais je me dis aussi, on a les outils maintenant, il faut les utiliser. Pourquoi on prend le vaccin? Se protéger des complications, protéger les gens qu'on aime, mais c'est aussi pour retrouver une vie normale. Puis là, on a cette possibilité-là. Donc, moi, je suis plus en faveur, mais il y a des éléments éthiques et je comprends qu'il y a des gens qui peuvent être réfractaires à ça, mais je vous dirais que dans les conditions actuelles, c'est difficile d'aller au-delà du 2500. Il y a aussi des questions d'équité. J'étais tout à fait en accord avec ce que M. Boisvert disait dans la presse ce matin. Évidemment, le Canadien de Montréal, même si on les aime beaucoup, même si je suis un grand partisan, ne devrait pas avoir de passe-droit par rapport à d'autres événements qui se tiennent ailleurs au Québec, d'autres salles de spectacle, et j'en passe.
M. Dubé a dit, écoutez, je vois les mêmes images que vous aux États-Unis, les stades sont pleins, on a déconfiné là, vitesse grand V, mais il a dit, je veux pas que les États-Unis soient mon benchmark, mon point de référence. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Bien, actuellement, non. Je pense que les États-Unis, par rapport à l'administration de la deuxième dose, sont beaucoup en avance. Si on regarde M. Cuomo dans l'État de New York, il y a un déconfinement, mais là, on parle de 70% de la population qui a reçu deux doses. Donc, on n'est pas du tout dans la même situation. Oui, il y a une grande accélération. Probablement que dans quelques semaines, on va être au même point que ces États-là, mais au moment où on se parle, on ne compare pas les mêmes choses. On ne compare pas des pommes avec des pommes. La grande majorité des États ont quand même une bonne avance en termes de population pleinement vaccinée par rapport à ce qui se passe au Québec. Donc, on ne peut pas regarder, même si je regardais avec envie ce qui se passe au Nevada, c'est difficile de comparer. Nevada, bon, évidemment aussi, il y a des États qui sont plus libertariens. Donc, ça c'est un autre élément qui entre en ligne de compte. Mais je dirais même au niveau santé purement, c'est pas la même chose actuellement.
OK, on va terminer sur une cocasserie. Vous avez dû démonter sur Twitter, là, j'ai vu passer ça ce matin, une rumeur prétendant que les gens qui ont reçu le AstraZeneca ne pourront pas voyager en avion. Fait que j'ai envie de vous demander de qu'est-ce.
Bien, c'est un autre élément de désinformation. On voit de plus en plus ce genre d'éléments qui apparaissent sur les médias sociaux pour faire peur aux gens par rapport à la vaccination. On leur dit, bon, en raison du risque de thrombose, les compagnies ne seront pas prêtes à accepter des gens qui ont pris le vaccin AstraZeneca parce qu'ils pourraient faire une thrombose, ils pourraient se faire poursuivre. C'est tout à fait faux. On le sait, le risque de thrombose demeure très, très faible, malgré qu'on a eu quelques cas au Québec. Et il n'y a pas actuellement de compagnies dans le monde qui ont mentionné qu'on ferait, disons, des différences par rapport au type de vaccins qui sont reçus pour les gens qui montent à bord. Donc, ce n'est pas scientifiquement valide et c'est une information aussi qui a été démontée, je dirais, par plusieurs médias aussi. Là.
Toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup, Dr. Carignan.
Au plaisir, au revoir.
Salut, Dr. Alex Carignan, microbiologiste infectiologue au CIUS de l'Estrie, CHUS et aussi professeur à l'Université de Sherbrooke.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
On a parlé de ces pressions dont M. François Legault ne se cache pas. Notre premier ministre a dit « Je fais des pressions sur Horacio Arruda pour qu'il y ait plus de monde au Centre Bell. » On sait que présentement, Philippe, c'est 2500 personnes. Ouais. Bien, cette pression-là, c'était le thème de la chronique d'Yves Boisvert de La Presse aujourd'hui. Titre de la chronique qui dit tout pour une séparation du Canadien et de l'État. Il est au bout du fil. Salut Yves!
Salut Patrick.
Donc, on a eu la séparation de l'État et de l'Église. Là, il faudrait peut-être une séparation de l'État et d'une autre religion, le hockey.
Oui, c'est ça. Il y a une sorte de mouvement. On est tous un peu, le moindrement qu'on suit les séries, un peu emportés par ce mouvement-là. Puis François Legault, on le sait, c'est pas seulement un amateur, c'est un connaisseur de hockey.
Mais oui.
Il était un des meilleurs dans le pool de hockey de la presse. Il a fini parmi les premiers.
Il connaît vraiment très bien son hockey.
Absolument. Mais là, écoute, je trouve assez particulier que ce qui était demandé par plusieurs personnes dans le milieu culturel, évidemment les restaurateurs depuis longtemps, des assouplissements qui ne se passaient pas, tout d'un coup, quand le Canadien arrive en série, là, ça devient important, ça devient urgent. Et en disant, il y a 18 000 personnes à Las Vegas, nous, on a juste 2500, comme si c'était un argument. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Christian Dubé, hier, avait l'air un peu mal à l'aise avec ça. Et comprenons-nous, là, Patrick, si on peut entrer 21 000 personnes dans le Centre Bell, parfait, il n'y a pas de problème. Mais que ça vienne du premier ministre qui dit, c'est moi qui demande à la santé publique. Je ne pense pas vraiment que c'est comme ça que ça devrait fonctionner.
Comment ça devrait fonctionner?
Ça devrait fonctionner sur des bases rationnelles, scientifiques, en disant, on estime qu'avec le taux de vaccination qu'on a, le taux de propagation, on peut ouvrir à X % et puis on peut aller à tant de personnes. Et puis, évidemment, tout le monde joue avec les manettes un peu partout, les règlements changent d'une place à l'autre. Et pas parce que tout d'un coup, on veut que l'équipe soit mieux encouragée par les partisans. C'est pas un argument de santé publique. Même chose pour l'ouverture des bars. Si on peut les ouvrir jusqu'à 3 heures, parfait, mais pas parce que tout d'un coup, le Canadien joue dans un autre fuseau horaire puis les gens veulent l'écouter plus tard.
Il y a Philippe Quentin qui est devant nous, journaliste sportif qui a couvert le Canadien. On va décortiquer les thèmes de ta chronique. D'abord, OK, il y a tout le côté religieux du hockey au Québec, on comprend, il y a un engouement. Mais il y a aussi tout le côté commercial. Le Canadien de Montréal, c'est une entreprise commerciale qui fait des représentations, qui a des lobbyistes enregistrés, etc. Et Philippe, j'ai envie de te poser la question, on reviendra à Yves après. Le poids du Canadien, les gestes du Canadien, qu'est-ce qu'on peut imaginer que le Canadien fait en coulisses, légalement, là, pour faire pression sur le gouvernement?
Moi, je pense que le poids du Canadien est énorme parce que le Canadien sait qu'il a une partie du public derrière lui là, dans ces demandes-là pour augmenter la capacité au Centre Bell. Mais le Canadien, dans les dernières années, s'est beaucoup servi de cette influence dans la société pour faire avancer ses dossiers. Puis comme tu le dis, c'est correct, mais quand tu penses, par exemple, au parc naturel là, dans l'île Notre-Dame qui a été créé, puis on sait que les spectacles du groupe
CH... Via la filiale Evenco.
Exactement, exactement, qui fait partie du groupe CH comme l'équipe de hockey. Alors, c'est sûr que le Canadien emmène très large là, à tous les niveaux du sport-spectacle, vraiment le sport et le monde du spectacle, avec énormément d'influence dans tout ça. Alors, il se sert de ces leviers-là. Puis là, on voit aujourd'hui que la direction du Canadien embarque dans le mouvement. Aujourd'hui, le journaliste Renaud Lavoie là, qui cite des commentaires qui ont été émis aujourd'hui par Marc Bergevin, directeur général du Canadien, et Dominique Ducharme, entraîneur-chef. Les deux nous disent que la foule a donné des ailes aux Golden Knights hier et puis qu'il faudrait, ce serait vraiment le fun qu'on ait plus de monde au Centre Bell pour les prochains matchs. Essentiellement, c'est le message qu'il livre. Et on sait que le premier ministre avoue lui-même que parler de tout ça avec Philippe Dano, qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un spécialiste en épidémiologie.
Non. Yves, Philippe Dano n'est pas connu, c'est un très bon joueur, là, mais j'ai pas encore déterminé, j'ai pas pu déterminer si le PM était, dans l'humour quand il a dit ça. Est-ce que les gens, quand ils ont réagi à ta chronique, parce que le Canadien, c'est une religion, parce que c'est une religion d'État quasiment, est-ce que tu t'es fait lancer des tomates?
Oui, quelques-unes, bien sûr, mais je te dirais que la plupart des gens sont dans l'esprit de la prudence, même les amateurs de hockey, bien sûr, j'en suis un, je l'ai regardé jusqu'à la fin du match, là. C'est pas la question, c'est juste qu'il y a bien d'autres choses qui seraient le fun, entre guillemets, pas juste... C'est vrai qu'aussi, c'est une entreprise commerciale, même si ça a un statut particulier, le Canadien, alors, de voir le premier ministre plaider auprès de sa santé publique en faveur du Canadien, je dis quand même un petit malaise, c'est pas un scandale, c'est juste comment on organise les règles, finalement. Et l'autre chose, et ça, c'est un peu plus sérieux, c'est que À moins de dire, ben là, on va augmenter, là, mais là, je sais pas, moi, si on se rend à 12 000 ou à 10 000, vous devez avoir un passeport vaccinal. Mmh. Ça, ce serait quelque chose, parce que regarde ce qui se passe au Royaume-Uni. C'est un des pays les plus vaccinés au monde. Il y a une vague qui arrive, là, parce qu'on ne sait pas exactement combien de pourcentage de la population ça va prendre pour avoir vraiment l'immunité de masse. C'est peut-être 90 % des experts qui disent ça. Alors donc, on ne veut pas que cette autre vague qui arrive en Grande-Bretagne se produise ici aussi. Donc, c'est pas seulement tout le monde doit être sur le même pied d'égalité, mais c'est que on n'en est pas sorti de cette pandémie, même si ça va bien, même si la vaccination, c'est formidable ce qu'on a fait au Québec. Et ben, il y a encore cette prudence-là.
Ouais, puis on sait, Yves et Patrick, que dans le milieu du sport olympique, la colère est grande, là, notamment envers le gouvernement fédéral qui a permis que les équipes de la Ligue nationale puissent franchir la frontière sans observer de quarantaine. Nos athlètes olympiques ne peuvent pas le faire. Il y a Dominique Gauthier là, de B210 qui a écrit un texte vraiment coup de poing pour dénoncer cette situation-là sur le site de Radio-Canada la semaine dernière. Je connais des gens qui œuvrent de très près dans le mouvement olympique canadien. Ils sont vraiment furieux parce que là, il y a vraiment apparence de manque d'équité envers les autres athlètes pour favoriser le Canadien et la Ligue nationale. Et ça, à mon avis, il va falloir que M. Legault soit conscient de ça.
Bien, M. Legault, évidemment, oui, ça relève du fédéral. C'est des gens qui vont porter le drapeau canadien, certains qui ont des espoirs de médaille ou simplement d'être des représentants, et à qui on dit, bon, ben là, continuez à vous entraîner à l'extérieur. Quand vous revenez, là, je pense à dans tous les domaines, là, les gens doivent avoir 14 jours, encore aujourd'hui, des athlètes qui sont vaccinés. Alors ça, c'est comme l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire eux, on ne leur permet pas d'inventer une bulle, là, de dire, vous allez partir de chez vous, vous allez aller à la piste d'entraînement ou au gymnase avec toutes les mesures de sécurité, tout en étant vacciné et testé. Non, ça ne marche pas. C'est comme s'il arrivait d'un voyage là, d'agrément au Nevada puis revenait à Montréal.
Yves, tant qu'à t'avoir au bout du fil, je sais que tu es un ardent marathonien. Le marathon de Montréal a été annulé, c'est en septembre. Oui. C'est un événement en extérieur. Est-ce que, puis on sait qu'à l'extérieur, d'habitude, les risques sanitaires sont pour le moins réduits. Est-ce que tu as été surpris de ça?
Oui, j'ai été surpris, d'autant que, et moi je suis inscrit à un marathon à Boston 2 semaines après la date qui était prévue pour celui de Montréal, et évidemment, c'est au Massachusetts, ils ont les mêmes préoccupations qu'ici, et ça semble, évidemment, ils ont réduit la grosseur de la participation. Alors oui, je suis surpris. Maintenant, pour que ce soit faisable financièrement, je pense que ça prend une masse critique. Alors là, c'est la décision de l'organisation. Je ne sais pas exactement. Je suis étonné, d'autant qu'ils savaient, eux, qu'il y aurait des mesures à suivre au moment où ils ont accepté de le faire. Là. Alors, je suis déçu pour tous ceux qui... Parce que c'est comme un retour aussi à une vie normale, puis à des activités de groupe qu'on pense pouvoir faire à ce moment-là. Alors, c'est décevant. Et, mais combien... Peut-être que c'est parce que c'est tellement préparé d'avance qu'ils ne peuvent pas, je pense, dire, bon, mais on va prévoir que les règles vont s'assouplir. Ça sera peut-être le cas à ce moment-là. Mais,
très bien.
Donc,
merci beaucoup, Yves.
Salut, à la prochaine.
Salut, c'était Yves Boisvert, chroniqueur à la presse. Et vous lisez sa chronique. De bons arguments, là, sur... On parle beaucoup de laïcité au Québec, de séparation de l'État et de la religion. Ben, le titre de la chronique, c'est « Pour une séparation du Canadien et de l'État ».
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Québec et Montréal s'attaquent au trafic d'armes à feu à Montréal parce que les fusillades sont en hausse. On le sait, ça fait des mois et on en parle. Et avec le déconfinement, ben ça s'améliore pas. Bien au contraire, ça commence à être... Je veux pas dire inquiétant, mais ça crée un sentiment d'insécurité dans la ville et à Montréal. On n'est pas habitué à ce genre d'événement. On veut surtout pas devenir un autre Toronto où depuis plusieurs années, ben disons que ça se tire pas mal dessus. On en parle tout de suite avec Valérie Plante, elle est mairesse de Montréal. Madame Plante, bonsoir.
Oui, bonjour, M. Lagacé.
Donc, l'annonce vient de se faire en compagnie de Geneviève Guilbeault, Chantal Rouleau, la ministre responsable de Montréal, Sylvain Caron, le chef de police à Montréal, et vous aussi, vous étiez là. 5 millions de dollars qui sont injectés. Ça va changer quoi sur le terrain dans l'immédiat?
En fait, ça va venir doubler l'escouade ELTA. ELTA, là, qui est vraiment dédiée, là, une escouade dédiée à la lutte au trafic d'armes. Donc, présentement, on en a à peu près 23 policiers, donc on va venir la doubler le plus rapidement possible. Le processus d'embauche a déjà commencé. Donc, c'est très positif, surtout quand on sait que depuis janvier, là, il y a 250 armes déjà qui ont été saisies. Évidemment, c'est pas juste ELTA qui saisit des armes. Il y a les patrouilleurs dans leur travail régulier. Mais clairement, il faut mettre de l'attention et des ressources sur cette problématique.
Le budget du service de police, c'est combien?
Le budget du... attendez, j'ai comme
à peu près, là, on est dans plusieurs centaines de millions de dollars, là.
Ah oui, tout à fait. Puis nous, en fait, la façon dont on l'augmente, c'est toujours à peu près à l'inflation, là, de oui. 2%. Bon an, mal an, là, je dirais que c'est cette augmentation-là est assez régulière sous notre administration, mais également les administrations précédentes.
Mais sachant là, que le budget de la police est de plusieurs centaines de millions de dollars à Montréal par année, écoutez, j'ai de la misère à voir... Qu'est-ce qui justifie qu'on fasse, disons, une conférence de presse pour une annonce où on injecte 5,5 millions?
Oui. Bien, écoutez, nécessairement, puis vous l'avez dit, là, il y a une préoccupation particulière sur les incidents qui impliquent une arme à feu. Il y a eu une augmentation quand même assez importante au cours des derniers mois dans des quartiers, surtout dans le nord et l'est, mais on a quand même vu dans le Vieux-Montréal. Certaines de ces... ce qu'il explique, entre autres, c'est on dit le trafic des armes illégales. Donc, il faut pouvoir trouver les têtes de réseau, trouver comment ces armes entrent, mais également pouvoir s'attaquer au crime organisé qui semble avoir de nouvelles pratiques, parce que c'est ce qu'on voit là. Quand on parle de ce qui s'est passé dans l'est de Montréal, c'est des coups de feu en plein jour dans des quartiers très résidentiels. C'est très loin de ce à quoi la police est habituée, ou du moins pourrait se préparer. De doubler l'escouade ELTA, pour nous, c'est une bonne nouvelle.
Est-ce que Montréal est encore une ville sécuritaire pour vous?
Oui, tout à fait. Ce qu'on se demande avec les policiers, c'est jusqu'à quel point la pandémie, le confinement aussi a pu jouer sur le nombre d'incidents qui augmente. Parce que avec le confinement, on a vu avec la COVID que ça s'était venu exacerber certaines inégalités sociales, entre autres. Il y a plus de détresse. Il semble y avoir de nouveaux réseaux de crimes organisés. Mais ceci étant dit, ça, il faut pouvoir le documenter, s'y attaquer. Mais Montréal, de façon générale, demeure une ville extrêmement, je dirais, sécuritaire, surtout, vous l'avez dit, quand on se compare à une ville comme Toronto.
OK, on va rester sur la question du sentiment de sécurité. Écoutez, je sais que c'est une question extrêmement complexe que celle de l'itinérance. Il y a des villes américaines qui ont juste essayé de tasser les itinérants, puis c'est cruel et inutile. Écoutez, il y a un coin de Montréal où je passe souvent. Là. C'est sur l'avenue Parc, près de Milton, là, pour situer les gens. Là, c'est juste, disons, entre Sherbrooke et le parc du Mont-Royal. Écoutez, il y a plusieurs itinérants qui sont là. Je ne veux pas parler de campement, mais il y a des gens qui sont étendus sur le trottoir, etc. Qu'est-ce que ça va prendre pour prendre en charge ces gens-là et qu'ils ne soient plus en train de camper en pleine ville?
Est-ce que vous parlez du coin autour de Milton?
Oui,
j'imagine, hein,
exact.
Quand on descend. Oui, tout à fait. Écoutez, oui, c'est une problématique très particulière, c'est-à-dire que de façon générale, il y a une compréhension, une connaissance des personnes en situation d'itinérance. Puis, je ne veux pas m'en remettre seulement à la pandémie, mais je ne vous cacherai pas que c'est venu ça aussi exacerber cette précarité qui peut mener à des gens à vivre dans la rue. Et là, on travaille avec et le provincial et le fédéral parce que ce sont beaucoup des communautés autochtones, dont Inuit, qui ont des besoins particuliers parce que je pense qu'il faut souvent aborder ces communautés-là avec une approche culturellement sensible. Et donc, on a besoin des autres paliers, surtout quand on sait que l'itinérance, c'est une compétence provinciale. Alors, même quand on a ouvert une ressource dans le parc, dans le Square Cabot, une tente, écoutez, on a dû, Montréal, gratter les fonds de tiroir parce qu'on n'arrivait pas à aller engager les personnes issues des communautés autochtones pour mener à bien les activités. Puis, selon moi, il devrait y avoir plus de ressources particulières de la part des deux autres paliers de gouvernement. C'est important ce qui se passe. Et puis, vous avez raison d'être outré parce que moi-même, quand je passe par là, je me sens extrêmement impuissante. Alors, on essaie de tout rassembler en ce moment pour venir en aide à ces personnes-là.
Trouvez-vous que le gouverneur du Québec comprend ce qui se passe à Montréal sur cet enjeu-là en particulier?
Écoutez, sur l'itinérance, c'est pas facile. Parce que je vais vous dire, moi, comment je le vis, parce que nécessairement, c'est sur notre territoire, puis moi, je veux que tout le monde soit en sécurité. Mais nécessairement, l'itinérance, c'est Québec. C'est Québec et nous, je n'ai ni les pouvoirs, ni la capacité financière. Alors, juste récemment, on vient de savoir que dans 2 semaines, à quoi vont ressembler les nouvelles ressources une fois que l'hôtel du Puy ferme. Je vous cacherai pas que pour moi, c'est un peu dernière minute. C'est pas comme ça que j'aime travailler. On parle de personnes qui sont déjà vulnérables. Il faut leur donner la prévisibilité. Il faut donner aux organismes ça aussi, la prévisibilité. Et quand on parle des personnes autochtones, ben c'est la même chose. Il faut leur venir en aide. Et puis, voilà. Je fais beaucoup de travail auprès de Québec pour les amener à une plus grande compréhension des enjeux. Disons ça comme ça.
OK. Disons que vous avez pris quelques détours. Je vais vous poser la question. Trouvez-vous qu'il y a une sensibilité à Québec pour ces enjeux-là? Parce qu'on le sait qu'à Québec, dans le gouvernement, je veux dire, il y a une députée de la CAQ de Montréal, si je ne m'abuse.
Oui, en fait, il y en a deux. Mme Rouleau, qui est responsable dans la métropole, et M. Campo dans l'Est. J'ai envie de vous dire que, clairement, à Montréal, les enjeux sont particuliers, que ce soit la question de la crise de l'abordabilité au niveau de l'habitation. Là, on vient de parler des itinérances. Puis entre vous et moi, tout est dans tout, là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as de la misère à te loger, puis je dis pas que systématiquement tu te retrouves dans la rue, mais il y a des vases communicants aussi. Donc, il y a un énorme travail. Mme Rouleau comprend bien les enjeux, mais c'est sûr que plus on est nombreux à pouvoir porter ces messages-là au sein du gouvernement, mieux c'est. Je sens une sensibilité, mais je sens que on pourrait la développer encore plus. Ils sont toujours au rendez-vous pour au niveau des ressources financières. Je pense entre autres à la pandémie. Le gouvernement du Québec était au rendez-vous et je les en remercie. Mais on doit continuer ensemble à être plus proactifs sur les enjeux de société d'une métropole. Parce que ce qu'on vit en ce moment à Montréal, c'est des enjeux de métropole comme Toronto, comme New York, comme Boston, comme Los Angeles.
Merci, Mme Plante. Bonne soirée.
Merci, au revoir.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.